peut-être faire une petite série, je ne sais pas, je verrai comment le Seigneur conduit les choses. Là, j'ai relu le premier chapitre de l'évangile de Jean, et j'avais à cœur de vous partager quelques pensées au sujet de ce chapitre. Alors, comme je l'ai fait il y a quelques semaines, voire peut-être quelques mois maintenant, c'est un message où je vous encourage à être dans un esprit d'adoration, de contemplation vis-à-vis de Jésus-Christ. Je pense qu'il y aura peut-être des illustrations ou des applications pratiques pour nos vies. Mais il est bon parfois que ça soit dans notre vie de prière, notre vie d'adoration, mais aussi au travers de messages bibliques, de diriger nos yeux vers Jésus et de simplement de regarder à qui il est, ce qu'il a fait, et afin que nous soyons motivés à avancer avec lui. Et donc j'aimerais lire dès maintenant cinq versets, les cinq premiers versets du chapitre, où il est écrit. Alors c'est des versets qu'on connaît tous, on les a lus maintes et maintes fois, mais là j'étais vraiment touché aujourd'hui par ces quelques vérités que je vais vous présenter. Donc Jean chapitre 1, versets 1 à 5, il est écrit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc Jean l'a écrit cet évangile, il le dit en conclusion à la fin de cet épître, afin que nous puissions croire que Jésus-Christ était l'envoyé du Père et que nous puissions être sauvés en son nom. Et je pensais déjà dans la vie de l'apôtre Jean, qui, on le sait, était particulier, il était un peu différent des autres des apôtres. Mais aussi, il y a une différence énorme par rapport aux autres, c'est qu'il a vécu beaucoup plus longtemps que les autres. On le sait, c'est historiquement prouvé. Il est mort peut-être à l'âge de 95 ans, peut-être un peu plus. En tout cas, il est mort à peu près en 100 après Jésus-Christ. Et donc, quand on considère un peu tout ce que cet homme, parce qu'il le dit, hein, celui qui écrit a été témoin de ces choses. Et donc, si on pense un peu à la vie de ce témoin, de l'histoire de l'humanité, parce que il a vécu les moments les plus importants de l'histoire de l'humanité, à savoir la venue du Fils de Dieu et du Sauveur sur la terre. Quand on regarde un petit peu ce qu'il a vu et la relation qu'il a eue avec Jésus-Christ, c'est quand même impressionnant tout ce qu'il a vécu. Tout d'abord, il a été choisi comme apôtre, ça nous le savons, et il a répondu à cet appel. Et plus encore, il a été l'apôtre bien-aimé, c'est-à-dire que dans son humanité, Jésus a particulièrement aimé cet apôtre, il y avait un lien très fort qui les unissait. Ce qui a amené d'ailleurs, lors de la scène, à ce que l'apôtre ait la liberté et la volonté d'accoler son oreille sur la poitrine de Jésus, et puis de, voilà, comme marque d'amitié, voilà, de presque fusionnel entre les deux. Il cherchait le cœur de Dieu en réalité, en faisant cela. Et puis, cet apôtre a été finalement le seul témoin, le seul apôtre témoin de la crucifixion, puisque les autres ont fui. Et donc il a vu son Seigneur mourir, il a vu son Seigneur souffrir, il a été présent, il était là. Et puis, il a été avec les autres présents lors de l'ascension de Jésus-Christ, donc la résurrection et l'ascension. Plus encore, il a eu une responsabilité qui lui a été confiée de la part du Messie, c'est devenir le tuteur de Marie, la mère de Jésus. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle est morte, mais en tout cas pendant un temps que je ne connais pas, il a dû prendre cette responsabilité de s'occuper de la mère de son Sauveur. Il a expérimenté la Pentecôte, donc il a reçu le Saint-Esprit. Et puis, c'est là où il a vécu. Alors, je vous ai dit, il était là au pied de la croix alors que les autres apôtres n'étaient pas là. Mais ce il a été témoin aussi, peut-être pas un témoin visuel, mais en tout cas, il était contemporain de la destruction de Jérusalem. Rappelez-vous, en Matthieu 24 et 25, Jésus annonce que Jérusalem va être détruite. Or, on sait, alors qu'il est mort, Jésus, à peu près en l'an 30, en l'an 70, donc 40 ans après, Jean est toujours vivant. Et donc, il a été informé, au courant, au moins, de cet événement, qui pour un, même s'il est devenu chrétien, mais pour un juif, est quelque chose de douloureux déjà, et puis sachant que c'était la conséquence du rejet du Messie. Et donc il a dû souffrir aussi de cela, avec toute la compassion du Seigneur dans son cœur. Donc il a été témoin de la destruction de Jérusalem. Et puis, bon, après, lui, il a vécu sa vie, faite aussi de persécution, et il a reçu les révélations que l'on peut lire dans le livre de l'Apocalypse. Donc, voyez un petit peu tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a pu contempler. Et j'essaie de faire un parallèle avec ma vie ou la vôtre. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir, mais juste au niveau du sens de ce qu'il a pu expérimenter et la profondeur spirituelle qu'il a pu vivre. Nous savons qu'il était l'apôtre bien-aimé, mais nous savons que nous sommes aimés de Dieu aujourd'hui. Dieu est au ciel et il nous aime en fonction de l'œuvre qu'il a accomplie. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête pour avancer dans la vie chrétienne, savoir l'assurance d'être aimé de Dieu. On peut servir Dieu, mais ne pas être sûr d'être aimé de lui. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Et ça doit nous amener à ce que Jean a fait d'une certaine manière, c'est de chercher le cœur de Dieu. Nous aussi, penchons notre tête sur la poitrine de notre Sauveur, penchons notre tête sur le cœur de Dieu. Essayons de rencontrer vraiment l'essence de Dieu. Et c'est une quête sans fin, en réalité, cette recherche de Dieu. Par moments, on vit des moments, oui, importants, des moments de communion avec lui, des moments forts. Ce sont comme des bornes qui jalonnent notre vie chrétienne. Mais recherchons ces moments-là. Ne les inventons pas, mais demandons-les à Dieu et soyons attentifs, demandons à Dieu, en tout cas, de nous donner le discernement pour que nous puissions trouver le cœur de Dieu au milieu de nos occupations, pour le royaume peut-être, mais au milieu de notre emploi du temps, les soucis de la vie, nos propres pensées, notre tempérament, nos émotions. Cherchons le cœur de Dieu plus que le cœur de soi ou le cœur des autres. Autre chose aussi que Jean a vécu, c'est qu'il était au pied de la croix, et donc il a suivi Jésus jusqu'à la croix, et d'une certaine manière, c'est ce qui nous est demandé aussi, de prendre notre croix et de le suivre. Ça, c'est quelque chose d'important. Les apôtres ont fui la croix, ont fui le rejet, ils ont fui la persécution, ils ont fui le qu'en dira-t-on peut-être, ils ont pensé à leur propre vie, alors que Jésus nous encourage à la perdre notre vie. Et on voit que Jean a été jusqu'au bout. Ce qui est intéressant d'ailleurs, en l'occurrence, ça aurait pu être autrement, mais en tout cas, en l'occurrence, s'agissant de lui, il a été gardé, il n'a pas été inquiété plus que ça. Il a été à la croix et il n'a pas eu peur d'être associé au nom de Jésus, et puis pourtant il s'en est très bien sorti. Autre chose aussi, comme il a été le tuteur de Marie, ça nous parle du fait de prendre soin de ceux que Jésus aime. Jésus nous aime, il prend soin de nous, mais aussi il souhaite prendre soin des autres au travers de nous. Et tout comme il a demandé à l'apôtre Jean de s'occuper de sa maman, Dieu nous demande de nous occuper des siens, de nous occuper des frères et sœurs. Que ça soit dans la prière, que ça soit dans l'encouragement, le service visible, parfois c'est le service invisible, mais prendre soin des âmes que Dieu nous confie. De prendre soin de nos enfants aussi, mais vraiment dans le bon sens du terme, dans le sens spirituel. Ce qui doit nous amener à vivre une forme de Pentecôte perpétuelle, c'est-à-dire d'être rempli du Saint-Esprit, d'être conduit par Dieu. Sans Saint-Esprit, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer, on ne peut pas vivre selon la puissance de Dieu, on ne peut pas avoir de sagesse, on ne peut pas être conduit, on ne peut pas être gardé. Donc, on ne peut pas avoir une révélation de sa parole aussi telle qu'elle devrait être, parce que le Saint-Esprit interprète les choses pour nous, nous éclaire, nous illumine, nous ouvre les yeux. Et donc nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit dans notre vie, ce qui doit nous amener à tout faire pour ne pas l'attrister et ne pas l'éteindre, et de tout faire pour marcher selon sa volonté. Et puis autre chose aussi auquel je pensais, lui a été le témoin, ou en tout cas, il a été informé de la destruction de Jérusalem. Et vous savez, dans ce monde, nous serons peut-être les témoins de catastrophes, nous serons peut-être le témoin de choses difficiles, nous serons peut-être le témoin du jugement de Dieu aussi sur un pays, sur la terre. Nous savons que nous ne vivrons pas la tribulation, mais néanmoins, avant la tribulation, Dieu agit déjà et La vie chrétienne, c'est vivre cette vie intérieure, c'est vivre une vie communautaire, fraternelle avec les autres, mais aussi c'est vivre dans le monde, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que nous faisons partie de l'histoire et nous allons vivre des choses avec les autres. Et je peux imaginer, vous savez, très bien, l'apôtre Jean, je ne sais pas moi qui est, je ne sais pas où il était quand Jérusalem a été détruit, mais imaginons qu'il soit à Éphèse en train de diriger une des églises, parce qu'on sait qu'il était plus ou moins ce qu'on appelle l'évêque, le surveillant des églises en Asie mineure. Imaginons qu'il commence à rencontrer au hasard dans la ville des juifs de la diaspora qui ont été obligés de fuir de Jérusalem parce que l'empereur Titus a écrasé la ville. Les gens voilà, vont se répandre partout dans le monde et des gens commencent à arriver à Éphèse. Et donc c'est des gens qui font partie de sa nation, qui font partie de son sang et qui ne sont pas croyants. Et comment il les a croisés, peut-être c'était une occasion pour lui de les réconforter, de leur annoncer l'évangile, de leur annoncer ce que le Messie avait prédit. Donc la vie chrétienne est faite de ça aussi, c'est-à-dire que nous sommes inscrits dans une histoire éternelle, mais aussi dans une histoire temporelle dans ce monde. Je pense souvent aux croyants de l'Ancien Testament qui ont été envoyés d'une manière ou d'une autre par Dieu en terre païenne, je pense à Joseph. Il a fait partie de l'histoire de l'Égypte et il a fait du bien à ceux qui étaient dans le besoin. Je pense à Daniel qui était à Babylone, qui a fait du bien à ceux qui étaient dans le besoin, même si c'était un roi ennemi. Et parfois, nous, ça va être notre vocation aussi au milieu de l'histoire de l'humanité. Et puis, si je devais faire un lien avec l'Apocalypse et les révélations que l'apôtre Jean a reçues, comme nous le savons, en Apocalypse, il y a trois grandes parties, hein, qui ne sont pas égales d'ailleurs en termes de quantité et de mots. Mais la première partie, le chapitre 1, c'est un chapitre où il a une vision de Jésus-Christ qui l'amène à l'adoration. Une vision de Jésus-Christ en gloire. Ça, c'est un chapitre qui est important de relire de temps en temps. Parce que il est vrai, alors que nous sommes dans ce monde, qu'on n'a pas toujours l'impression que Jésus-Christ est au-dessus du monde, qu'il est au-dessus du diable, qu'il est en train de régner et qu'il est le plus puissant. Et pourtant, quand on lit Apocalypse 1, avec ses cheveux flamboyants, sa parure, son épée dans sa bouche, et qui d'ailleurs, je le précise, n'est pas la parole de Dieu, là, ça parle vraiment du jugement de Dieu qui va arriver sur la terre, on le voit glorifié, et ça, c'est notre Dieu tel qu'il est aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Il règne, il est puissant, il a tout vaincu, il a vaincu le monde, il a vaincu le péché, il a écrasé la tête du diable, il a vaincu notre péché en nous, le péché qui habite en nous, et voilà, il a toute autorité. Et ça, c'est notre Jésus-Christ, c'est celui à qui l'on prie. Et puis autre chose aussi qu'il a reçu dans cette révélation, c'est qu'il a eu une révélation de ce qui se passait dans les églises, les sept églises, dans chapitre 2 et 3. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous concerner. Pensons à l'Église. Pensons à la nôtre, celle dans laquelle nous sommes, nous vivons. Et puis, prions, pensons aux églises de nos ministères, de ces églises que nous connaissons en partie, peut-être un peu de loin. Et puis, prions aussi, on ne fait peut-être sans doute pas assez, pour les autres dénominations. Prions pour l'Église universelle. Prions pour les problèmes théologiques dans l'Église. Prions pour qu'il y ait des convictions dans ce monde qui nous pousse à mettre de l'eau dans notre vin. Prions pour qu'il y ait un zèle pour l'évangile. Prions pour que des gens vivent une sanctification qui puisse amener l'Église à être encore plus une lumière au milieu des ténèbres. Donc ça, c'est le souci, la vision, le souci de Christ qu'a des Églises, mais voilà, participons à cette vision-là. Et puis, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19 et même après, nous avons des révélations sur le fait que nous ne sommes pas dupes, ce monde va passer, ce monde va être jugé. Et c'est pour ça, moi ça m'arrive souvent, alors que je suis peut-être enclin, pas à la colère, mais voilà, c'est triste de voir le monde des fois dans lequel nous sommes, où il y a tellement d'injustices, mais je me dis, sans que ça soit un substitut pour ne rien faire, mais Dieu va exercer sa justice. Et c'est ce que nous lisons dans l'Apocalypse. C'est Dieu qui va mettre un point final à ça. C'est Dieu qui va gagner. Il ne faut pas se leurrer. Dieu est lent à la colère, mais la colère de Dieu viendra. Dieu est juste. Et ceux qui devront recevoir rétribution, recevront rétribution. Et s'ils la recevront, c'est parce que ce sera bien de le faire et de la donner, cette rétribution. Parce que nous avons un Dieu qui est juste. Nous croyons en cela. Il est saint, il est parfait. Il a tout fait pour que les gens soient sauvés, mais il ne permettra pas que le mal perdure éternellement. Et ça, c'est un encouragement aussi, de le savoir. Et puis évidemment, nous sommes remplis d'espérance avec cette nouvelle Jérusalem, cette nouvelle terre. Ce lieu où il n'y aura ni soleil ni lune, parce que le Seigneur sera notre lumière, et ça c'est extraordinaire. Alors la lumière, nous l'avons déjà reçue, lumière spirituelle, mais ensuite, dans la résurrection, il y aura la lumière au milieu de nous, et ce sera Christ, l'agneau immolé. Donc voilà, ça c'est la vie de cet homme, et c'est aussi une application, je crois, très pratique pour nous, avec la mesure qui est la nôtre, évidemment, nous n'avons pas vécu sa vie. Et c'est pas le même appel que nous avons reçu. Néanmoins, nous sommes chéris comme Jésus a aimé l'apôtre Jean. Et nous pouvons lui donner en retour sans problème. Et c'est ce qui peut nous aider à avancer dans la vie chrétienne. Alors ensuite, ce que nous voyons dans ces cinq premiers versets du chapitre 1, c'est qu'on voit Jésus-Christ et la relation qu'il a avec certaines choses ou avec certaines personnes. Tout d'abord, le verset 2, il nous est dit, donc je rappelle, en commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, donc la parole là, c'est Jésus-Christ, et la parole était Dieu, donc Jésus-Christ est Dieu. Et il est dit au verset 2, elle était au commencement avec Dieu. C'est intéressant parce que j'en parlais, je crois, dans un cours dernièrement, ou ailleurs, je ne sais plus. Mais quand il est dit que Jésus-Christ est la parole, le logos, c'est en fait, la pensée de Dieu qui s'est faite chair. Vous, par exemple, vous êtes dans votre appartement là. D'une certaine manière, vous êtes inaccessible. Je vous vois, mais je peux pas vous toucher, je peux pas vous sentir, je peux pas sentir votre présence. Voilà. Mais Dieu, c'est plus encore. C'est qu'il n'a pas de visage, il est esprit. Et puis en plus de ça, le péché nous aveugle. Et pourtant, il existe. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu à la place du Père, c'est-à-dire qu'il a été la pensée du Père. Un peu comme lorsque des fois vous êtes envoyé par quelqu'un de votre famille, je ne sais pas, ou dans votre entreprise, on vous donne la responsabilité de parler à la place de quelqu'un d'autre. C'est une sacrée responsabilité. Peut-être que vous allez faire des erreurs, vous allez mal transmettre la pensée, mais pourquoi on vous le demande? Parce que vous connaissez le cœur de celui qui vous envoie. Ou alors un autre exemple, dans l'église, il y en a qui travaillent avec moi depuis longtemps, ils peuvent, je pense, des fois dire, bah non, ça, Texier, pasteur Texier, il serait pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que des gens peuvent parler à ma place, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils me connaissent tellement que devant une situation, ils peuvent parler à ma place. Et là, Jésus-Christ, c'était à 100% ça, c'est-à-dire que nous ne pouvions pas atteindre Dieu, nous ne pouvions pas voir Dieu, et Jésus-Christ a accepté l'incarnation pour que nous puissions voir la pensée de Dieu. On peut pas voir une pensée. Normalement. On n'a pas accès. Mais parce que lui est venu en chair, il a pu manifester la pensée de Dieu. Quelle grâce nous a été donnée par ce geste, par cette volonté du Fils d'obéir à la pensée du Père. Et donc la pensée de Dieu s'est faite chair. Et donc on a pu le contempler, enfin pas nous, mais les apôtres, et nous, au travers des descriptions qu'il nous a faites, on a accès à Dieu, et là je ne parle pas uniquement de l'accès grâce à la croix, etc. Bien sûr, il y a ce côté-là qui est le plus important, mais de manière plus générale, Dieu s'est fait homme pour que nous puissions encore mieux comprendre Dieu. C'est parce que c'est le plus facile pour nous. Les animaux, on a du mal à les comprendre, hein, ils pensent pas comme nous, ils se comportent à des insectes, mais Dieu, le fossé est encore plus grand, même si nous avons été créés à l'image de Dieu. Et là, Jésus-Christ est venu, il s'est fait homme, il est venu habiter parmi nous, et il nous a dit, voilà, je suis le Fils de Dieu, si vous me voyez, vous voyez le Père. C'est quand même extraordinaire la révélation que nous avons reçue. Quel privilège nous avons. Et donc, il a été investi d'une sacrée responsabilité de parler à la place de quelqu'un, mais ce quelqu'un, c'était pas n'importe qui. En 1 Jean, chapitre 1, verset 2, donc c'est toujours l'apôtre Jean, mais dans sa première épître, au chapitre 1, verset 2, il dit, car la vie a été manifestée. Pensez à ça. Car la vie a été manifestée. Moi, si je connaissais pas ce verset, j'aurais tendance à me dire, la vie, elle a été manifestée par mon expérience. C'est-à-dire, je suis en vie et la vie se manifeste. Et par votre vie, la vie se manifeste aussi. La nature, donc la vie est manifestée. En réalité, non. Parce que c'est pas de cette vie-là dont nous avons besoin en premier. Nous avons besoin d'une autre vie. C'est une vie qui vient d'en haut. La vie terrestre est nécessaire pour connaître Dieu. Il a fallu que nous existions. Nous avons été faits de chair. Mais plus encore, il est dit dans cette première épître de Jean, la vie a été manifestée. Et la vie, c'est Jésus-Christ. C'est pas la nôtre. C'est pas l'air qu'on respire. C'est pas le temps que nous vivons. La vie, c'est Jésus-Christ. Notre vie, c'est notre vie, c'est une vie. Votre vie par rapport à la mienne, ben, ça fait deux vies, trois vies, quatre vies. Mais la vie, c'est Jésus-Christ. Et la vie a été manifestée. Et Jean dit, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Vous imaginez ça, c'est que l'apôtre Jean a été le témoin de la vie éternelle. La vie éternelle est venue. La vie éternelle a marché en chair. La vie éternelle a parlé. La vie éternelle a prêché, a mangé, a dormi, a communiqué une vision céleste. Et la vie éternelle est morte sur la croix. Voilà, ça c'est la réalité de notre Jésus-Christ. La vie. En dehors de Jésus-Christ, nous n'avons pas la vie. Nous avons une vie, mais nous n'avons pas la vie. En Philippiens 2, versets 5 à 8, nous connaissons ce passage sur le kénosis, le dépouillement. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce passage-là, ça nous décrit la vie d'un homme. C'est sa biographie, en résumé. Mais en fait, c'est le résumé de la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui s'est donnée pour nous, pour que nous puissions la recevoir. Vous voyez, c'est... Évidemment, il n'y a pas de décision à prendre, il n'y a pas de choses à faire quand on pense à ces révélations qu'il y a dans les Écritures. C'est juste de s'informer, de contempler ce que Dieu a fait. Mais moi, je sais que ça me motive, ça m'encourage à aller de l'avant, ça m'encourage à prier, ça m'encourage à obéir, ça m'encourage, ça fait du bien à mon âme de savoir qui j'ai connu, quel est ce Seigneur de gloire, qui est la deuxième personne de la Trinité. Quelle est cette personne que je vais rencontrer un jour et qui, lorsque je le verrai, je serai comme lui. Alors, après avoir parlé de la relation de Jésus avec Dieu, Jean, après, il parle de la relation de Jésus-Christ avec la création. C'est le verset 3. Il est dit, « Toutes choses ont été faites par elle, donc par la parole, par Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » C'est-à-dire que tout ce que nous avons a été fait par Jésus-Christ. Avant même le salut, tout. Et c'est pour ça que on peut dire que par lui, Dieu a créé le monde. Vous comprenez pourquoi Jésus-Christ est tellement important? Au niveau de la hiérarchie, Dieu, c'est le Père évidemment qui a toute autorité, c'est lui qui est au-dessus. Mais dans la manifestation du Père auprès de nous, c'est par Jésus-Christ que ça nous a été donné. On a accès au Père que par Jésus-Christ. Tout est par Jésus-Christ. La création est par Jésus-Christ. On voit ça dans Hébreux chapitre 1, verset 2. Dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. C'est par Jésus-Christ que le monde a été créé. C'est-à-dire que c'est par Jésus-Christ que j'ai été créé. C'est par Jésus-Christ que vous avez été créé. Et donc, on lui est redevable en tout, au niveau du salut, mais même au niveau de notre existence au départ. Par lui, Dieu a créé, et alors ça c'est la deuxième chose aussi, c'est que non seulement que c'est par lui que la première création a été suscitée, créée, mais c'est par lui que la nouvelle a été créée. On voit ça dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les préparions. » C'est-à-dire que je suis né il y a X années par Jésus-Christ, parce que toutes choses ont été créées par lui, mais je suis né de nouveau, nouvelle création, par Jésus-Christ aussi. En 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je ne peux pas être une nouvelle créature sans Jésus-Christ. C'est en lui que je suis une nouvelle créature. Donc voilà une première partie de la relation de Jésus avec la création, si vous voulez. Et autre chose aussi que l'on voit, et ça c'est la troisième partie, c'est la relation de Jésus-Christ avec les hommes. En 4, verset 4, il est dit « La parole, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La vie était la lumière des hommes. Et pensez un instant à ça. Nous savons, on vient de voir hein, que tout a été créé par Jésus-Christ. Donc, si on lit Genèse chapitre 1 et qu'on voit la création, en réalité, c'est Jésus-Christ, la parole. Dieu dit et les choses se font. Et dans la création, qu'est-ce que Dieu a créé? Il a créé, à un moment donné, un grand luminaire. Je crois que c'est au verset, c'est le quatrième jour. Et puis le petit luminaire. Et il a séparé avant les ténèbres de la lumière. Donc on voit que dans la création, il y a la lumière. Nous sommes d'accord. Et dans cette création, notamment sur la terre, il a placé l'homme. Mais il nous est dit, au verset 4, « Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. » Ça sous-entend que le soleil, la lumière naturelle, créée par Dieu pourtant, ne nous suffit pas. Le soleil n'est pas la lumière. La création ne suffit pas pour nous remplir, pour nous faire du bien. Nous avons besoin de la lumière des hommes. Et la lumière des hommes, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce point-là sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête et que l'on garde peut-être le plus. Car ce n'est pas la création qui est notre lumière, ce n'est pas ce que nous vivons, c'est pas, même si c'était un environnement parfait, ce qui n'est plus à cause du péché, mais moi, dans mon âme, pour parler que de moi, selon ce que je lis ici, c'est que si Jésus-Christ ne règne pas dans ma vie, je ne suis pas éclairé. Parce que la vie est la lumière des hommes. C'est Jésus-Christ qui est la lumière. Je peux réussir dans la vie, je peux faire plein de choses, je peux regarder la nature, regarder le soleil, comme le font aussi même les idolâtres, qui des fois ont adoré le soleil, hein, les religieux. Mais en réalité, la vraie lumière, c'est Jésus-Christ. J'ai besoin d'être en relation avec sa personne. Et c'est en cela que l'homme est un être à part. Il est un être à part parce que il est à l'image de Dieu. Le souffle de Dieu lui a été donné, chose qui n'a pas été faite avec les animaux, qui eux sont des âmes vivantes, mais il n'est pas parlé d'un esprit. Et parce que nous avons eu un esprit, nous avons besoin de la vie de Dieu, de la lumière. Par sa lumière, nous voyons la lumière. C'est impossible autrement. Par Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce que nous, on a tous des besoins et on peut les combler en partie, bien entendu, je veux dire, par les richesses, les plaisirs de ce monde. Et là, je ne parle même pas du péché, mais je veux dire, la vie peut être vécue et on peut vivre des bonnes choses. On peut vivre des relations amicales, amoureuses pour certains, une vie de famille. On a un travail qui nous intéresse, on peut avoir de l'argent, on peut partir en vacances, on peut faire des bonnes choses, on peut faire donner de l'argent aux pauvres aussi. Enfin, toutes ces choses-là sont bonnes. Mais en réalité, ne pensons pas que nous n'avons pas besoin de Jésus-Christ comme lumière. C'est cette lumière-là que nous avons besoin. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que j'ai besoin de lui parler et qu'il me parle. Si la parole est la lumière des hommes, j'ai besoin de sa parole. J'ai besoin de sa parole. Et je dirais même pour rien, pas pour... Vous savez, quels sont les... Quand on réfléchit un petit peu au niveau des relations humaines, comment nous pouvons-nous évaluer, enfin, quels sont les critères qui nous permettent de dire que nous aimons une personne plus qu'une autre? Alors, il y a le côté, je dirais, intérieur, émotionnel, sentimental, c'est-à-dire que nous savons que nous aimons une personne plus qu'une autre, mais ça, il n'y a que nous qui le sachions. Ça, les autres ne le savent pas, c'est nous qui le savons. Mais par contre, extérieurement, comment pouvons-nous discerner que quelqu'un en aime une autre? Ben, il y a peut-être plusieurs réponses, mais ce soir, la réponse que j'aurais tendance à donner, c'est qu'on a envie de parler à cette personne. On a envie de parler à cette personne. À la limite, peu importe le sujet. Alors que pour d'autres, un collègue de travail, je peux l'aimer et tout, mais voilà, j'ai rien contre lui, mais on va parler boulot. Et puis après, moi, je rentre chez moi, il me manque pas, j'ai pas envie de lui parler plus. Par contre, quand on commence à aimer quelqu'un, jusqu'à vouloir vivre avec, d'ailleurs, c'est qu'on a envie de lui parler, on a envie de sa présence. Et la manifestation de la parole de Dieu dans notre vie, c'est un révélateur de l'amour que nous avons avec Dieu, en réalité. C'est Seigneur, parle-moi. Et tu vas me parler de plein de sujets, pas uniquement des sujets qui me concernent. Bien entendu, j'ai besoin de la Bible pour vivre et avancer dans mon quotidien, et j'ai besoin que tu me parles, que tu me conduises. Mais j'ai aussi envie de savoir ce que tu as fait avec le roi David. Alors, il y aura peut-être des applications personnelles pour moi, mais quand bien même il n'y en aurait pas, j'ai envie de voir ta grandeur. J'ai envie de voir ce que tu as fait pour Israël. J'ai envie de voir ta justice dans ces livres. Voilà, j'ai envie de te voir, Seigneur. C'est toi le seul vrai Dieu. Tu es la lumière du monde. Et je veux t'aimer, je veux te contempler. Et contempler Dieu, c'est entre autres contempler sa parole. Et donc, cette lumière des hommes est nécessaire. J'ai besoin de la personne de Jésus-Christ dans ma vie. Vous savez, en Jean 10, 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu. Et donc, encore une fois, il est venu. Il s'est incarné. Il a voulu se manifester en chair. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà, ça c'est notre Jésus-Christ. C'est la raison de sa venue. Et c'est pour ça qu'il a pu dire aussi, par ailleurs, en Jean 6, 32 à 34, je vous le dis en vérité, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, donc c'est Jésus, et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Et voyez, ça, c'est la volonté de Christ de vivre des belles choses avec nous. On n'est pas encore au ciel, mais quelle attente il a envers nous. Lui aussi a envie de discuter avec nous. Il a envie que nous lui parlions, que nous déposions nos fardeaux, que nous prions pour nous-mêmes, pour les autres. Il a envie de nous écouter, il a envie de nous chérir, il a envie aussi de nous reprendre s'il le faut. Mais tout ça dans une unité parce que nous sommes en lui. Et c'est pour ça que nous pouvons le remercier parce que non seulement que c'est par lui que tout a été créé, c'est par lui ensuite que nous avons reçu la vie et c'est par lui que nous avons été justifiés en Galates 2,17. Tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Vous voyez, nous avons été justifiés par Christ. Nous avons été réconciliés avec Dieu par Christ. Sans Christ, pas de réconciliation. On voit ça dans 2 Corinthiens 5, 18. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Vraiment, c'est des phrases dont on a besoin de se nourrir. C'est que Christ est tout pour nous. Il a tout donné et il est tout pour nous aujourd'hui. Par lui, on peut vivre. Sinon, la lumière ne brille pas dans mon cœur. Et c'est pour ça que la conclusion d'Apocalypse, après les... Vous savez ce qui se passe sur les sept églises, chapitre 2 et 3. Nous savons que l'apôtre Jean est enlevé dans le ciel, et puis là, il voit le trône de Dieu avec un arc-en-ciel au-dessus, l'agneau comme immolé au pied du trône. Et à un moment donné, il entend un chant de louange où il est dit au chapitre 4, verset 11, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voilà l'esprit d'adoration que nous devons avoir envers Jésus-Christ. Il a créé toute chose, il a tout fait, il est venu pleinement, c'est l'essence même de Dieu qui est venu sur la terre. Et ça nous amène au dernier point, c'est verset 4, où il est dit, en elle, donc la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous savez, là où la lumière a besoin de briller, c'est pas dans ce monde forcément. Bien sûr que Dieu aimerait que la lumière brille dans ce monde, mais elle doit briller dans nos cœurs. Si Jésus est venu, c'est pour que la lumière brille dans nos cœurs. On voit ça dans 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, et il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est dans nos cœurs qu'il est venu faire briller la lumière. La parole était la lumière des hommes, mais en fait, la parole est devenue ma lumière un jour. Et elle a fait briller sa lumière au sein de mes ténèbres, dans mon cœur. Et sans cette lumière, mon cœur est ténébreux. Il n'y a pas eu que la génération au temps de Jésus qui l'a rejeté. C'est pas le monde au niveau créationnel qui a rejeté Christ. C'est les habitants du monde. Ce sont les êtres humains qui étaient remplis de ténèbres. C'était les cœurs méchants qui ont rejeté Christ. Et nous, par sa grâce, nous avons reçu la lumière qui a brillé au milieu de nos ténèbres. Et c'est pour ça que on peut remercier Dieu de l'avoir reçu, d'avoir cette opportunité de la recevoir quand on voit la grandeur de ce Dieu, l'exigence même de ce Dieu, sa sainteté, tout ce qu'il réclamait. Et en même temps, du haut de son trône, il s'est humilié pour, jusqu'à la mort de la croix, permettre que la lumière vienne briller dans notre cœur. Et ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais pour beaucoup, heureusement pour d'autres dont nous faisons partie, il y a cette espérance. Donc, quand nous relisons un peu ce passage, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Ça, c'était dans l'éternité passée. On n'existait pas, le monde n'existait pas, rien n'existait. Il était Dieu. Et à un moment donné, il est dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et moi, tout petit homme, en 2021, je peux, oui, confesser que j'ai reçu toutes ces bénédictions-là. La lumière, lui, dans les ténèbres, et si les ténèbres ne l'ont point reçue, moi, en tout cas, j'ai eu la grâce de le recevoir. Et c'est une espérance merveilleuse. Et alors que nous avons peut-être des décisions à prendre, peut-être que notre vie de prière est un peu atone, peut-être que nous lisons pas suffisamment les Écritures, on les étudie pas suffisamment, peut-être qu'on ne fait pas une chose que Dieu nous demande de faire, peut-être qu'on déprime, peut-être qu'on vit sans espérance, on se sent seul. Voilà, on a peut-être peur d'une décision qu'on a à prendre, on a peur du temps qui passe, on a des regrets, on est amer peut-être parce que des gens nous ont laissé tomber, ou peut-être on est dans la culpabilité parce qu'on a laissé tomber des gens. Mais en tous les cas, quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il ait pu nous arriver, la lumière peut briller au milieu de nos ténèbres. C'est notre Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.